Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Éric Dupri.
Bienvenue sur Radio Présence à l'écoute de Vivante Église pour un numéro spécial consacré à l'un des penseurs les plus importants de la seconde moitié du XXe siècle, René Girard, celui qui se définissait lui-même comme un anthropologue du sacré, de la violence et du religieux, a été rappelé à Dieu le 4 novembre 2015. Dans cette émission, nous allons lui rendre hommage et nous pencher sur l'actualité de son œuvre à l'occasion du 10e anniversaire de sa mort. Et pour rendre hommage au père de la théorie mimétique, j'ai la chance d'avoir en duplex pour cette émission Benoît Chantre, qui fut son ami et qui a fait paraître l'an dernier aux éditions Grasset une colossale biographie de René Girard. Bonjour Benoît Chantre, merci d'avoir accepté mon invitation. Je ne pouvais rêver meilleur interlocuteur pour cette émission à laquelle je tenais beaucoup.
Merci beaucoup, bonjour Éric, je suis aussi très heureux d'être avec vous aujourd'hui.
Je dois ajouter que vous présidez aussi l'association Recherche Mimétique qui promeut l'œuvre de René Girard et publie notamment des études et des articles qui lui sont consacrés. J'ai dit que René Girard était le père de la théorie mimétique parce que c'est ainsi qu'on le présente souvent. Et c'est vrai qu'il l'est, mais c'est très réducteur, il me semble, parce que son œuvre ne se résume bien sûr pas à ça, même si ce concept est sans doute son intuition la plus géniale, celle qui est au cœur de sa pensée. Je vais vous demander pour nos auditeurs de préciser ce que sont pour vous ses livres les plus importants. Il y en a trois qui me semblent primordiaux. Le premier, qu'il a fait paraître en 1961, « Mensonges romantiques et vérités romanesques », puis « La violence et le sacré » paru en 1972, et enfin « Des choses cachées depuis la fondation du monde » paru en 1978. Est-ce qu'on peut dire que ces trois livres sont les piliers, les murs porteurs de l'œuvre et de la pensée girardienne, et partant de là, quelles sont les idées et les concepts que René Girard développe dans chacun d'entre eux ?
Oui, bien sûr, on peut dire que ce sont les trois ouvrages majeurs de Girard, puisque à l'issue du dernier, en 78, il déclara à son ami Michel Serres que son œuvre était achevée. À la grande surprise de son ami d'ailleurs, car Girard avait encore beaucoup de projets, mais il voulait dire par là que l'ensemble de l'ossature de sa pensée était dorénavant clairement exposée. Alors évidemment, on pourrait revenir longtemps sur ces trois livres. Ce qui est intéressant de noter tout de suite, c'est que Girard publie le premier et les autres d'ailleurs, mais alors qu'il vit aux États-Unis et il les publie en France. Il est arrivé aux États-Unis en 1947, sortant des vapeurs du post-surréalisme et d'une conception de la littérature qui était encore très, très fumeuse, si je puis dire, puisque avec Valéry, on disait que la littérature est le royaume des choses vagues. Girard a tout de suite compris en enseignant les romans, les grands romans français à Bloomington dans l'Indiana, puis à Johns Hopkins à Baltimore, que la littérature romanesque n'était pas le royaume des choses vagues, mais au contraire, quand elle était géniale, le lieu où apparaissaient des lois extrêmement précises, une géométrie du désir, qu'il a tout de suite appelé désir triangulaire ou désir mimétique plus tard, qui vise à montrer que nous ne désirons jamais un objet spontanément, mais toujours par le truchement d'un tiers qui le désire déjà ou pourrait le désirer. Ce qui intéresse Girard, c'est le devenir de cette structure du désir, puisque très rapidement, le modèle devient sujet et le sujet devient modèle. Nous passons dans ce que Girard appelait un stade de médiation double, où nous sommes tous à la fois sujet et modèle. Girard voulait par là comprendre le drame de la modernité tel qu'il se donne à voir chez les grands romanciers comme Stendhal, Flaubert, Dostoïevski, Proust, drame de la modernité que Tocqueville appelait égalitarisme démocratique, où les modèles pullulent tellement que nous savons de moins en moins discerner les bons des mauvais. Et Girard a fait du roman, des romans, des grands romans de Cervantes à Proust, des marqueurs, comme on dit aujourd'hui, de ce devenir du nihilisme occidental, c'est-à-dire de ce moment où les valeurs transcendantes se dissolvaient, en quelque sorte disparaissaient, où le bien commun n'était plus évident pour quiconque. Ce moment, qu'il qualifie lui-même de nihiliste dans son premier livre, qui est la crise de la modernité, ressemble étrangement à ce qu'il va appeler dans son deuxième livre la crise sacrificielle, c'est-à-dire ce moment où dans toutes les sociétés, puisque dans son deuxième livre il s'intéresse à l'anthropologie, à la sociologie religieuse, et il se passionne pour l'ethnologie, ce moment où dans toutes les sociétés, des crises apparaissent, où les violences légales et les violences illégales se confondent, où les grandes différences qui structurent les sociétés finissent par disparaître. Cette hantise qui marque toutes les sociétés archaïques, qui est celle de l'indifférenciation, une seule solution a pu permettre de l'effacer, d'y échapper. Ça n'est pas une solution politique, c'est un phénomène de physique sociale, le phénomène du lynchage fondateur, c'est-à-dire ce moment où la violence de tous contre tous, la guerre de tous contre tous, brutalement se retourne en guerre du tous contre un. Ce moment, cette polarisation victimaire, ce moment où l'unité se retrouve derrière la désignation de celui qui est responsable du désordre et, une fois immolé, restaurateur de l'ordre, cette scène première qui se répète dès qu'une société entre en crise, c'est ce que Girard décrit génialement dans son deuxième livre, La violence et le sacré, en reprenant une intuition fondamentale de Freud dans Totem et Tabou. Il comprend par là que tous les rituels sacrificiels sont des reprises, des mimiques, des imitations de cette hantise, de cette scène première, pour tenter de vacciner régulièrement les sociétés contre leur violence, contre leur désordre, c'est-à-dire contre ces moments où les grandes différences structurelles n'apparaissent plus aussi fortes, où les grandes digues institutionnelles finissent par se rompre, bref, où revient la guerre civile dans quelque société que ce soit. Les rituels qui répètent cette scène première avaient pour efficacité de purger en quelque sorte régulièrement les sociétés de leur propre violence. Ces rituels religieux contenaient la violence aux deux sens du verbe contenir. Ils étaient violents, bien sûr, mais ils empêchaient la violence de déborder. C'est ainsi que Girard trouve un moteur de l'hominisation, dit-il, c'est-à-dire un principe, un modèle génétique qui permet de comprendre le passage de la préhistoire à l'histoire, et notamment d'expliquer des phénomènes comme celui de la sédentarisation ou ces phénomènes des premières constructions des sociétés hiérarchisées. Cette approche génétique du pouvoir, des ordres symboliques, des ordres culturels, va être approfondie dans son troisième livre qu'il sort très vite après, en 78, « Des choses cachées depuis la fondation du monde », auquel il donne l'allure un peu fictive d'un dialogue socratique avec des interlocuteurs qui l'interrogent sur la théorie qu'il a mise en place. Dans ce troisième livre, Girard approfondit ce qu'il a déjà compris dans La violence et le sacré, qui devait être la préface à une théorie du christianisme, c'est-à-dire la scène de la passion, telle que rapportée dans les évangiles, qui est la mise en visibilité très radicale de ce phénomène fondateur du tous contre un. À partir du moment où ce phénomène est si clairement mis en lumière, à partir du moment où il ne peut plus œuvrer dans l'ombre comme il le fait depuis des centaines de milliers, voire des millions d'années, alors ce système, ce mécanisme victimaire va se détraquer. Girard s'intéresse, alors que ça n'était pas du tout à la mode à l'époque, à l'intuition profonde des évangiles qui est apocalyptique. C'est-à-dire, la mort et la résurrection du Christ mettent au jour ce phénomène de l'unanimité du tous contre un, puisque même Pierre renie son rabbi, ce phénomène qui est absolument structurel de l'humanité, il le révèle à un point de l'espace, à un moment du temps, c'est-à-dire cette période axiale qui est celle du christianisme, cette période fondamentale qui est celle de la révélation de l'innocence absolue de la victime émissaire, eh bien, correspond à un moment où l'humanité peut-être être assez mûre pour comprendre les mécanismes de sa propre violence. Et Girard de dire, non sans un certain effroi, que c'était peut-être un alcool trop fort pour l'humanité, parce que une fois les mécanismes victimaires mis au jour, alors c'est le phénomène de cette métaphore terrible de Jésus dans Matthieu, « Je vois Satan tomber du ciel comme l'éclair », c'est-à-dire celui qui œuvrait dans l'ombre, le mécanisme accusatoire, Satan c'est l'accusateur en hébreu, et bien une fois révélé, il tombe. Alors ce n'est pas la chute, la fin de Satan, comme dans le grand thème romantique hugolien, c'est la chute de Satan. C'est-à-dire, une fois cette révélation effectuée, au lieu de faire advenir le royaume immédiatement, moment d'amour et de paix universelle, eh bien, cette révélation fait chuter ce phénomène qui, sur Terre, va faire des ravages. C'est pour ça que le dernier livre de René Girard, dont nous parlerons tout à l'heure, Achevé Clausewitz, s'intéressait à cette montée aux extrêmes, thème du général prussien, c'est-à-dire cette incapacité que nous avons dorénavant de trouver les moyens d'endiguer une violence devenue planétaire. Donc ce grand risque majeur qui est à notre horizon aujourd'hui est, si l'on peut dire, le visage que prend la vérité pour se dire. C'est en creux, d'une certaine manière, que la réalité tangible du royaume apparaît dans le déchaînement de la violence humaine.
Alors, on va évidemment revenir sur tous ces points en seconde partie d'émission lorsque nous évoquerons l'œuvre de René Girard aujourd'hui, son influence, ceux qui se réfèrent à cette œuvre. D'autres ouvrages de René Girard vous semblent-ils aussi essentiels à connaître? Alors vous avez cité Je vois Satan tomber comme l'éclair. Est-ce qu'on peut y ajouter Le bouc émissaire, La route antique des hommes pervers, par exemple?
Bien sûr, il y a finalement assez peu de livres, même s'ils sont importants. Girard a publié en 82 un recueil d'articles déjà existants auquel il a donné la forme d'un livre très articulé, Le bouc émissaire, où il s'intéresse en particulier au délitement de la mythologie dans les textes qu'il appelle de persécution. Il montre très bien que dans les chasses aux sorcières, dans les accusations antisémites contre les juifs qui empoisonnent les rivières au Moyen Âge, dans ces textes de persécution, on voit un mythe qui ne fonctionne plus. Parce que le principe du mythe, c'est de se refermer sur la parole forclose de la victime. La victime a totalement disparu dans le mythe, puisque le mythe raconte la naissance des dieux, le mythe raconte l'origine des sociétés, mais ce phénomène du lynchage fondateur y est toujours dissimulé. Dans le texte de persécution, il apparaît au grand jour. C'est-à-dire, le mythe ne peut plus se refermer sur la parole bâillonnée de la victime. Démonstration magnifique qui ouvrait l'intuition d'une histoire possible de la mythologie. C'était la possibilité que lançait Girard avec ce livre. La mythologie connaît une histoire et la révélation judéo-chrétienne, prophétique, biblique et évangélique est un moment clé de cette transformation des structures mythiques de l'humanité. Le Job est un livre important, c'est La route antique des hommes pervers, publié 3 ans plus tard, en 85, à l'heure où Girard est l'objet de critiques très acerbes, en particulier dans son pays d'origine, eh bien peut-être se met à la place de Job, c'est-à-dire s'intéresse à ses vrais amis et non pas à ses faux amis, à ceux qui lui sont restés fidèles, et il commence en méditant très profondément sur l'anti-Œdipe qu'est la figure de Job, c'est-à-dire celui qui ne donne plus aucun gage au système accusatoire, contrairement à Œdipe qui, même devenu victime, accuse encore les autres et s'accuse encore lui-même. Job, lui, ne fait que clamer son innocence. Il est une victime émissaire qui prend la parole, ce qui est une révélation absolument formidable, extraordinaire, quasi contemporaine de l'expérience des tragiques grecs. Et c'est à la parole métaphorique de cette victime sur son fumier que s'intéresse Girard, se mettant en quelque sorte à genoux devant le poème biblique et tentant d'en faire apparaître la puissance poétique et anthropologique. Ce livre sur Job a été critiqué. On a dit que Job n'était pas un bouc émissaire. Les théologiens se sont insurgés, en France surtout. Il me paraît très important aujourd'hui. Plus je le relis et plus je vois que c'est un livre qui, notamment dans sa démythification du phénomène tyrannique, de la tyrannie, est un livre très puissant. Il est publié en 85, 4 ans avant l'effondrement du mur de Berlin, ce qui n'est pas rien. Et puis, bien sûr, Je vois Satan tomber comme l'éclair, 99, après son grand livre sur Shakespeare, qu'il faut aussi mentionner, qui est de 90. Très très grand livre, livre impressionnant de composition et de profondeur, où Girard retrouve toutes les grandes étapes de sa démonstration. Je vois Satan tomber comme l'éclair devait être une conclusion en quelque sorte. Il est dédicacé à ses petits-enfants, il s'adresse à eux dans une langue qui n'a plus du tout la technicité des livres précédents. De manière extrêmement simple, à la Bernanos, il fait face au phénomène satanique avec les thèmes apocalyptiques qu'on connaît de lui. C'est un très beau livre qui résume très très bien sa pensée. Et puis l'accélération de l'histoire a fait que, avec l'effondrement des tours de Manhattan, Girard, qui n'était plus lu en France depuis 10 ans, est revenu au premier plan et a essayé de comprendre ce phénomène de la violence planétaire du terrorisme qui a donné lieu à cette relecture du grand traité de Clausewitz et que nous avons appelé ensemble ce livre Achever Clausewitz.
Livre sur lequel nous reviendrons en fin d'émission également. Alors, je voudrais qu'on parle de René Girard, l'homme de foi, le chrétien. Sa conversion au catholicisme survient vers la fin des années 50, lorsqu'il écrivait Mensonges romantiques et vérités romanesques. Est-ce qu'elle a été à la fois un événement crucial dans sa vie personnelle, bien sûr, mais aussi pour sa pensée, pour son œuvre à venir? En d'autres termes, est-ce qu'il faut lire René Girard à l'éclairage de cette conversion en l'ayant toujours à l'esprit?
Bien sûr, on a essayé de faire à Girard le coup qu'on a fait à Bergson, qui revient au catholicisme à la fin de sa vie avec ce très grand livre, Les deux sources de la morale et de la religion, en 1932. On a voulu faire le même coup à Girard et dire qu'il y a un Girard finissant, vieillissant, dans des choses cachées depuis la fondation du monde en 78, qui brusquement se met à prêcher, à se prendre pour un père de l'Église, alors que ces deux précédents livres étaient vraiment scientifiques, et le troisième parce que apologétique ne pouvait être qu'une marque de sénilité. Contre ce montage typiquement français, cette lecture fausse de Girard, il faut effectivement rappeler que c'est dans la lumière d'une conversion fulgurante, dans la semaine pascale de 1959, une période assez fondamentale de l'histoire du monde moderne, puisque c'est à la fois les prodromes de la crise de Cuba d'un côté et l'annonce du Concile Vatican II de l'autre, que le Girard sartrien, le Girard qui avait quitté une Europe en ruine en 47, dégoûté par le pétainisme, dégoûté par la collaboration, dégoûté par ce qu'il avait vécu à Paris, le Girard qui a découvert ce qu'il appelle le pétainisme américain une fois arrivé dans l'Indiana, avec le maccartisme, qui n'est lui aussi qu'un prodrome de ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, le Girard qui était habité par la haine, disait-il, en sartrien qu'il était, il y avait le moi authentique et les salauds, ce Girard trop critique de sa société d'accueil, brusquement fait l'expérience qu'il voit se faire dans tous les grands romans, c'est-à-dire au lieu de se mettre au centre, moi je suis seul et eux ils sont tous, il prend conscience de manière absolument fulgurante de ce que c'est que le péché des origines, de ce que c'est que le péché originel, c'est-à-dire cette capacité que nous avons toujours à nous exclure d'un monde que nous accusons. Cette manière d'être impliqué complètement dans la relation à l'autre, ce primat de la relation sur toute subjectivité, c'est ce qu'il découvre de manière bouleversante intellectuellement en travaillant sur ce qu'il appelle la révélation romanesque ou la conversion romanesque, qui prend des accents religieux chez certains romanciers, qui n'a pas d'accent religieux chez d'autres, mais qui est fondamentalement un retournement total du sujet, qui finit par comprendre qu'il n'a pas de secret qui lui soit propre. À une certaine profondeur, dit Girard dans Mensonges romantiques et vérités romanesques, le secret de l'autre et le secret du moi sont une seule et même chose. Nous sommes tous identiques. Cette identité fraternelle, c'est ce que lui fait brutalement, de manière très bouleversante, même dans une certaine semaine, il y a comme une chute de Damas, en quelque sorte. C'est ce que lui fait comprendre cette mémoire chrétienne qui ne cessait de le porter, même s'il pensait l'avoir définitivement oublié.
Il disait tout de même, si ma mémoire est bonne, je cite de mémoire, « Aucun appel au surnaturel ne doit rompre le fil des analyses anthropologiques ». Donc il essayait vraiment de faire la part des choses dans son travail, dans sa pensée, entre sa foi personnelle et l'objet de ses études.
Absolument, puisqu'il ne s'agit pas pour lui de faire œuvre de théologien, il ne l'était pas, la théologie l'ennuie. Il s'agit pour lui de regarder les effets anthropologiques de la révélation dite judéo-chrétienne. C'est-à-dire il y a pour lui quelque chose de très fondamental qui a eu lieu, comme le disait Simone Veil, qu'il lit ardemment à cette époque, quelque chose de fondamental a eu lieu à un point de l'espace, à un moment du temps, qui a complètement retourné, en quelque sorte, l'humanité, et ce sont les échos de cet événement qu'on découvre dans une littérature occidentale qui n'est pas forcément spécifiquement chrétienne. Et on découvre les échos de cette révélation dans cette découverte fondamentale que nous sommes tous les mêmes, pour le meilleur et pour le pire. Ça, c'est ce que les grands romanciers finissent par découvrir après ce stade qu'il appelle, René Girard, celui de la conversion romanesque, où brusquement, nous sortons de nos subjectivités closes pour nous rendre compte que nous n'existons que dans la relation aux autres. Ce que Girard appelait non pas l'inter-individualité, mais l'inter-dividualité.
Nous allons faire la pause habituelle dans cette émission, puis nous évoquerons ensuite l'influence de René Girard et de son œuvre aujourd'hui, ce en quoi celle-ci reste opérante pour comprendre le monde actuel, ses rapports de force et les évolutions en cours. Vous en avez déjà un petit peu parlé, Benoît Chantre. René Girard s'était intéressé aux relations entre Nietzsche et Richard Wagner. Alors je vous propose de faire cette pause en écoutant l'ouverture de Tannhäuser.
Thank you. présence.
Vivante Église, Éric Dupri.
Nous revoici pour la seconde partie de cette émission consacrée à René Girard à l'occasion du 10e anniversaire de la mort de l'auteur de La violence et le sacré. Je suis toujours avec Benoît Chantre, président de l'association Recherche Mimétique, ami et biographe de René Girard. Nous avons rappelé en première partie ce qu'étaient les grands concepts développés par celui qui se définissait comme un anthropologue de la violence et du religieux. J'évoquais à l'instant l'association Recherche Mimétique qui promeut l'œuvre de René Girard, entre autres pour en montrer toute l'actualité 10 ans après sa mort. Est-ce que cette œuvre est encore très étudiée et analysée aujourd'hui, Benoît Chantre? Est-ce qu'on continue à s'y référer, que ce soit en France ou ailleurs?
On s'y réfère de plus en plus, oui, ce qui nous réjouit, puisque c'est une œuvre complexe à défendre dans la mesure où, en France en tout cas, il est complexe de citer quelqu'un qui vient de la théorie littéraire, qui est passé par l'anthropologie, qui a bâti une apologétique et qui, ultimement, s'intéresse à la géopolitique. La France est compartimentée dans son université et de tels parcours transdisciplinaires sont toujours complexes à enseigner. Alors, les deux premiers livres de René Girard, « Mensonges romantiques et vérité romanesque » et « La violence et le sacré » figurent toujours dans les listes des classes préparatoires, qui est quand même un critère important de l'importance qu'on accorde à un auteur, mais les autres livres étaient moins connus, et donc le sens de l'association que nous avons créée avec René Girard au moment de son entrée à l'Académie française était de faire connaître l'ensemble de l'œuvre qui n'était pas si bien connue que cela en France, et puis de développer ses intuitions dans tous les champs disciplinaires que Girard a croisés ou qui se sont intéressés à son œuvre.
Est-ce qu'il y a des thèses sur René Girard qui ont déjà été faites ou qui sont en cours aujourd'hui? Est-ce qu'on publie de nombreux articles? Est-ce qu'il est très étudié dans les universités? Vous avez parlé des classes préparatoires. Et là, je dis bien, ça peut être en France, mais aussi aux États-Unis, où il a enseigné et vécu pendant près de 70 ans.
Alors justement, là, le cas français légitimait la création d'une association française qui rassemble les girardiens francophones, puisqu'il n'y a pas eu de médiation universitaire qui ait vraiment assumé l'entièreté du parcours girardien. À l'étranger, c'est beaucoup plus simple. Girard est traduit dans plus de 30 pays. Aux États-Unis, malgré ses années et sa vie passée là-bas, il a mis un certain temps à être sérieusement travaillé. Mais il y a 30 ans, une association anglophone, COVER, Colloquium on Violence and Religion, s'est montée, qui rassemble chaque année, ou aux États-Unis ou dans quelque part dans le monde, en Europe ou ailleurs, les girardiens du monde entier. Donc c'est plutôt un milieu anglophone où l'on voit des gens de toutes origines disciplinaires ou confessionnelles se rencontrer pour discuter des thèses de leur développement et de leur actualité. Alors là, dans les universités étrangères, en Europe et dans le monde, il y a beaucoup de thèses, d'articles. Une revue scientifique, Contagion, publie depuis longtemps des articles de très très bon niveau, mais ils sont en anglais. Alors, d'où l'importance pour nous de créer bientôt, c'est ce que nous allons commencer à faire là dans l'année qui vient, une revue girardienne pour que ces articles scientifiques, qui ont fait l'objet d'un séminaire que nous allons ouvrir à l'Institut catholique de Paris, puissent être lus par tous, ainsi qu'un certain nombre de varias, d'articles qui ne seront pas forcément groupés thématiquement, et de comptes rendus sur l'actualité girardienne en France et dans le monde. Voilà, c'est toujours ça marche bien ailleurs, mais paradoxalement, cet auteur qui n'a écrit que dans l'horizon français, en débattant avec des intellectuels français, qu'il a fait connaître aux États-Unis. Il est l'un des grands passeurs de ce qu'on appelle la French Theory, la théorie, la pensée française moderne. Paradoxalement, cet auteur est très mal étudié ou peu étudié dans son pays. Nul n'est prophète en son pays. Alors que dans les autres pays, et en particulier de langue anglaise, mais aussi en Italie, en Allemagne, bien sûr, en Europe, il est quand même très cité et très étudié, et de plus en plus convoqué pour comprendre la folie du monde tel qu'il advient.
Est-ce qu'il y a des auteurs, des penseurs, des sociologues, des anthropologues qui sont influencés par l'œuvre et la pensée de René Girard, voire qui revendiquent une filiation girardienne? Et là, je pense à des gens qui seraient connus et reconnus.
Mais il y a beaucoup de, il y a un certain nombre de gens, alors là, à nouveau, parmi les Girardiens, mais je dirais franco-américains, je pense à des gens, ou franco-canadiens, je pense aux deux premiers qui ont quand même lancé le girardisme, puisqu'ils ont été très actifs à la fin des années 70 et au début des années 80, Jean-Pierre Dupuis et Paul Dumouchel, qui ont créé les grands colloques de Cerisy autour de l'œuvre de Girard, qui ont publié tout cela, monté ensuite aux États-Unis, à Stanford, quand Girard arrive en Californie au début des années 80, des colloques, ça c'était l'œuvre de Jean-Pierre Dupuis, tout à fait fondamentale, qui ont été aussi dûment publiés, dont on peut lire les fruits aujourd'hui. Ceux-là ont donné le ton, et puis ensuite, assez rapidement, en particulier dans le sillage du dialogue que Girard eut avec un théologien suisse et autrichien, Raymond Schwager, très rapidement, c'est-à-dire fin des années 80, après le livre sur Job, qui était dédié à Raymond Schwager, s'est créée une communauté qui a essaimé. Alors, se revendiquant de lui aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui l'ont traversé, je pense à des grandes œuvres comme celle de Milan Kundera, qui disait à l'un de mes amis, s'il avait lu Mensonges romantiques et Vérités romanesques avant de commencer à écrire des romans, il n'aurait jamais écrit de roman. Tellement la clé du romanesque est génialement mise au jour par Girard dans ce livre de 61. Alors Kundera, et puis il y a d'importance moindre mais tout de même très lue, des gens comme Daniel Pennac en France. Alors il y a des grands historiens allemands, Ernst Nolte, dans la guerre civile européenne, où il analyse la rivalité mimétique entre Hitler et Staline, emploie explicitement des concepts girardiens sans citer Girard, mais il est évident que Girard travaille cette grande thèse que François Furet a critiquée avec brio parce qu'elle était partiale, mais ces concepts travaillent cette grande thèse et Girard est déjà lu par des esprits puissants. Les économistes se sont recommandés de lui, je pense à André Orléans en France. Daniel Cohen également, qui nous a quittés récemment, qui enseignait l'économie à l'École normale supérieure, était très marqué par les livres de Girard. Et alors aux États-Unis, il y a un certain nombre de gens qui travaillent. Charles Taylor a répondu aussi à Girard, qu'ils soient des Girardiens explicites. Il y en a beaucoup de gens peut-être moins connus, mais qui ont une voix qui porte aujourd'hui, comme Wolfgang Palavers, Sandy Goodhart. Qu'il soit donc autrichien, américain, voire australien également, qui cite beaucoup Girard et qui vraiment se réclame de sa pensée.
Je connais votre conviction sur la question. En quoi la pensée et les théories girardiennes sont aujourd'hui des clés, des grilles de lecture essentielles pour comprendre les grandes évolutions du monde actuel et les rapports de force qui sont à l'œuvre entre les États-Unis, l'Europe, la Russie, la Chine, le Proche et le Moyen-Orient?
Ben malheureusement, j'ai envie de dire, c'est heureusement pour l'œuvre de Girard et malheureusement pour le monde, puisque cette œuvre, finalement, qui restait relativement discrète malgré son importance, n'hésitait pas à aborder frontalement des perspectives apocalyptiques. Nous sommes entrés depuis quelques années dans une période totalement apocalyptique, c'est-à-dire, il faut l'appeler par son nom, la fin de l'ordre mondial. Ce que Girard a analysé sa vie durant, ce sont des crises dans les sociétés, celle de la société française de l'occupation, celle de la société américaine du McCarthyisme, celle de toutes les sociétés qui se désagrègent, qui se décomposent pour se recomposer, toujours violemment. Ce mouvement de décomposition-recomposition, il en a fait une théorie. Mais avec la violence planétaire telle qu'elle se déchaîne aujourd'hui, ça n'est plus à l'échelle d'une société, mais de la planète entière, sans parler de la violence que les hommes eux-mêmes font subir à la Terre, c'est-à-dire les désastres écologiques qui étaient la dernière hantise de Girard dans les années qui ont précédé son décès. Alors bien sûr, c'est une pensée qui aujourd'hui mord considérablement sur la réalité géopolitique, c'est-à-dire l'effondrement de l'ordre mondial. On a parlé du terrorisme, il a essayé de le comprendre dans ce livre que nous avons fait ensemble sur les guerres asymétriques, qui s'appelle Achever Clausewitz, mais le devenir du post-terrorisme, si je puis dire, si tant est qu'il soit passé et derrière nous, c'est la montée des pouvoirs tyranniques, bien sûr. C'est cette espèce de mouvement assez effrayant qui prend par exemple le nom aujourd'hui du club de Shanghai, qui est le club peu distingué de tous les tyrans de la planète, qui se fédèrent contre les lois du mimétisme fonctionnant très bien contre un autre tyran, en l'occurrence contre une Amérique affaiblie, devenue chauvine et autoritaire. Cette guerre des tyrans, si on peut l'appeler ainsi, est une nouvelle guise, une nouvelle phase, un nouveau visage de ce que Girard, avec Clausewitz, appelait la montée aux extrêmes. Et il est évident que la violence y apparaît au grand jour.
Alors, je vais redescendre un peu d'un cran, encore que, est-ce que sa pensée est importante aussi, est opérante pour comprendre la violence telle qu'elle s'exerce aujourd'hui, par exemple sur les réseaux sociaux?
Bien sûr, puisque le délitement des nations mondialisées dans la grande sphère des réseaux sociaux est une manière formidable d'instrumentaliser les populations, d'instrumentaliser les opinions. Et les réseaux sociaux, avec la pratique très précise de la désinformation qu'on y voit opérer, sont à l'origine de la construction de ces pouvoirs tyranniques de plus en plus menaçants et de plus en plus effrayants. Donc là, on a affaire à un retour du refoulé, en quelque sorte. Dans la violence telle qu'elle apparaît dans les réseaux sociaux, on retrouve tout à fait ce que Girard analyse à la lumière de son approche comparée des rituels et des mythes très nombreux qu'il a pu observer, analyser, comparer. On observe des phénomènes mimétiques tout à fait semblables, oui, avec des rivalités contagieuses qui finissent par, à un moment donné, se polariser contre le premier venu, c'est-à-dire celui qui, a priori, n'est pas forcément le coupable qu'il faut immoler, celui qui passe par là, celui qui est une victime aléatoire, dit Girard, ou une victime émissaire. On voit ce fonctionnement des lynchages par les réseaux sociaux fonctionner vraiment presque comme un outil d'analyse.
Je vais vous faire écouter maintenant un court extrait d'un entretien que René Girard avait accordé à l'essayiste et écrivain Daniel Lance. Ça se passe en 2010 chez René Girard à Stanford. Il y est question de la possibilité que la théorie mimétique devienne à la mode.
Alors tout d'un coup, vous êtes passé de celui qu'il ne fallait pas lire mais que tout le monde lisait sans citer, à celui que tout le monde ne lit pas, mais que tout le monde cite.
Oui, c'est très mauvais, ça. C'est très mauvais parce que si la théorie mimétique devient la mode, c'est une catastrophe pour
elle. C'est ça, c'était ma question. Oui.
Parce que la mode ne dure pas. La mode est destructrice. Parce que la mode, c'est la fausse intelligence qui gâche tout ce qu'il y a de vrai dans la recherche intellectuelle.
Voilà, très court extrait donc d'un entretien accordé par René Girard à Daniel Lance en 2010. Alors Benoît Chantre, est-ce que vous avez le sentiment que des expressions comme théorie mimétique ou bouc émissaire sont aujourd'hui devenues à la mode? Et est-ce que vous voyez un danger à ce qu'on les utilise à tort et à travers en se réclamant parfois indûment de la pensée de René Girard?
Oui, bien sûr, il y a une simplification évidente, et on parle du simplisme de cette théorie, ce qui n'est pas le cas. Vous l'avez rappelé, j'ai écrit une grosse biographie intellectuelle pour montrer que cette pensée est complexe, beaucoup plus complexe qu'on ne le pense. Les formulations simples sont souvent une manière géniale de dire la complexité, mais c'est une pensée complexe que certains thèmes ne peuvent pas résumer si aisément. C'est pour ça que je m'applique, par exemple, à sortir, là, je sortirai bientôt chez Grasset, à la rentrée en janvier prochain, là, un petit essai sur la tyrannie, puisqu'on a parlé de ce problème. Là, Girard parle de la tyrannie de la mode. C'était une de ses hantises qui ne fait qu'un avec la tyrannie tout court, c'est-à-dire la puissance de l'opinion. La tyrannie de la foule et celle du prince s'appellent l'une l'autre. Et aujourd'hui, c'est plus que jamais cela qu'il faut mettre au jour chez Girard, alors de manière un peu parfois complexe. Il faut montrer que cette théorie aussi politique, théorie de la tyrannie, elle se prend dans une lecture très précise des textes bibliques et grecs, les tragiques grecs, et que ça n'est pas si simple que les résumés qu'on peut en faire. Et la façon d'en faire des résumés trop hâtifs finit par nous faire croire que Girard nous donne la formule pour construire un pouvoir autoritaire, alors que c'est exactement le contraire. Girard n'est pas un objet politiquement récupérable, mais un sujet critique de toutes les tyrannies qui montent.
Est-ce que René Girard doutait à la fin de sa vie de ses théories, ou plutôt est-ce qu'il regrettait de s'être peut-être trop focalisé dessus au point d'être passé à côté d'autres concepts importants, de ne pas avoir assez creusé certains d'entre eux?
Il y a cette question constante chez Girard, croyez-vous à votre propre théorie? Il y a un chapitre très, très beau d'ailleurs dans son Shakespeare, qui est une relecture de Joyce, James Joyce. C'est une question importante, oui, faut-il croire à ses théories? Girard y croyait, puisque ça a été quand même pour lui une intuition originaire qu'il n'a cessé d'enrichir et d'approfondir. Il est l'homme d'une ou deux idées, comme s'amusait à dire Roberto Calasso, mais qu'il a creusé très à fond. Ça n'est pas pour autant qu'il ne pensait qu'avec ce prisme-là. Pour ceux qui l'ont bien connu, j'en suis, qui ont travaillé avec lui, j'en suis aussi. Girard parlait passionnément d'autres auteurs. Il a lu passionnément dans les années 80 des auteurs de la tradition chrétienne, sans jamais leur appliquer la grille qu'on veut le voir appliquer partout sur les textes qu'il lit. Et il s'intéressait beaucoup à toutes les opinions, même contradictoires, contredisant les siennes, et il avait le goût de l'entretien. Je ne sais pas si des penseurs contemporains de Girard ont donné autant d'entretiens qu'il en a donné. C'est quelqu'un qui acceptait toujours de discuter avec les gens qui demandaient à le rencontrer, et ça n'était pas pour les catéchiser ou pour leur imposer ses grilles. Mais par contre, évidemment, il croyait à sa propre théorie, puisqu'il la voyait se confirmer dans les ouvrages qu'il lisait et dans le monde tel qu'il se décomposait à nouveau sous ses yeux.
On va terminer avec H.V. Clausewitz, hein, que nous avons déjà évoqué à plusieurs reprises au cours de notre entretien. Donc, c'est un livre de discussion que vous avez fait avec lui il y a presque 20 ans maintenant. C'est le dernier qui a été publié par René Girard. Et vers la fin de vos échanges, il y fait part de sa conviction que nous sommes entrés en apocalypse. Il se décrivait lui-même comme un apocalyptique, hein, un mot que vous avez utilisé également. Est-ce qu'on peut dire que René Girard était pessimiste sur l'avenir du monde et l'avenir de l'humanité ?
On a dit, en effet, que ce livre était un livre extrêmement pessimiste, puisque il voulait, me disait-il, frapper un dernier coup avant de clore son œuvre. C'est effectivement un point final tel qu'il l'a dûment pensé et médité. J'ai simplement prêté ma plume à la constitution de ces entretiens, qu'on a eu vraiment très long et très approfondi sur le texte, mais aussi sur le devenir de l'après 11 septembre. Girard est pessimiste dans la mesure où il annonce, vous l'avez dit, il y a presque 20 ans, cette fin de l'ordre mondial. Donc ça, il y a une vraie angoisse chez lui. Mais un tel pessimisme, une telle apocalyptique, je dirais plutôt, ne peut pas avoir lieu si ce n'est sur fond d'une très grande espérance. Girard me disait « tu verras des choses que je ne verrai pas ». Ça n'était pas la jouissance de voir le monde s'effondrer, c'était l'émotion de voir que les grands textes qu'il avait écoutés avec une attention très particulière, en particulier les prophètes bibliques et les textes des évangiles, allaient retrouver une actualité troublante. Ça l'impressionnait énormément. Et sa théorie, d'une certaine manière, est falsifiable, comme toutes les théories scientifiques, pas de manière mathématique, comme celle de Karl Popper, mais de manière assez simple, elle s'est donnée comme objet l'archaïque en décomposition. Et c'est donc pour supprimer tout ce qu'il y a d'archaïque encore dans le religieux chrétien que Girard a si passionnément défendu cet héritage. Et à un moment donné, il sera très clair que c'est aux lueurs d'une nouvelle culture que nous assistons. Alors c'est peut-être la fin du monde, c'est un possible qui est réel, mais il y a un autre possible qui est tout aussi réel, qui est ce que Michel Serres, lisant Girard en 78, appelait la nouvelle culture, c'est-à-dire quelque chose qui adviendrait après la décomposition de tous les ordres anciens, de tous les ordres fondés sur le meurtre.
Eh bien, je pense que nous allons conclure là-dessus. Merci infiniment, Benoît Chantre, pour cet entretien passionnant. Je signale qu'il y a un dossier spécial consacré à René Girard qui est paru samedi dernier dans La Croix, Face à la violence avec René Girard. Il va sans dire que je recommande aussi la lecture des livres de René Girard, en particulier de tous ceux que nous avons cités au cours de cette émission. Je conseille aussi à nos auditeurs de se procurer et de lire la colossale biographie que vous lui avez consacrée. Elle est sobrement intitulée René Girard et elle est parue l'an dernier aux éditions Grasset. Ce numéro était animé par Éric Dupri. Il a été réalisé par Jonathan Botello. Merci à tous nos auditeurs de leur fidélité à l'écoute de Vivante Église. À la semaine prochaine.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.